Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on s'intéresse à une maladie, la question de la transmission est toujours essentielle. Dans Priorité Santé, nous évoquons régulièrement des affections qui sont portées, inoculées par un ou plusieurs vecteurs. La maladie vectorielle la plus redoutée et la plus connue est certainement le paludisme, ce parasite transmis par le moustique. Et aujourd'hui, dans notre émission, c'est un autre être vivant de toute petite taille qui va retenir notre attention. Cet être vivant, c'est la tique. Il existe des centaines d'espèces de ces acariens à huit pattes qui se nourrissent du sang des animaux comme de celui des êtres humains. Sa morsure peut transmettre diverses maladies. En France, la plus connue d'entre elles, c'est la maladie de Lyme. En Europe orientale, en Chine, dans certaines régions du Japon, elles peuvent transmettre l'encéphalite à tique. Dans d'autres zones de la planète, ce sera la fièvre Congo-Crimée. Dans tous les cas, diagnostic et prise en charge précoce sont essentiels. Et pour cela, il faut identifier les premiers symptômes et mieux sensibiliser les personnels soignants sur ces différentes maladies vectorielles à tique. Vos questions sur la maladie de Lyme, comment prévenir et mieux diagnostiquer les maladies transmises par les tiques? Pour nous joindre, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41. Et pour vous répondre, nous retrouvons à Strasbourg, en duplex dans les studios d'ICI Alsace, le professeur Yves Hansmann. Bonjour professeur.
Bonjour, Madame Paris.
Vous êtes responsable du Centre de référence des maladies vectorielles à tiques au CHRU de Strasbourg. Coup de projecteur aussi sur ces maladies vectorielles en Afrique de l'Ouest. On va donner tout à l'heure la parole au docteur Lucien Dossouk-Bété, infectiologue à Cotonou, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé du Bénin. Et puis à la veille de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, on retrouvera en fin d'émission le professeur Isaac Odamé. Il est professeur d'hématologie et d'oncologie au département de pédiatrie de l'Université Toronto au Canada, directeur médical du Global Sickle Cell Disease Network. Nous l'avions rencontré à Abuja au Nigeria à l'occasion du congrès mondial consacré à cette maladie génétique de l'hémoglobine au tout début du mois.
Priorité santé sur RFI.
Alors, la maladie de Lyme dont on va surtout parler avec vous, professeur Yves Hansmann. Mais une première explication pour bien fixer les choses. Il existe de nombreuses maladies transmises par les tiques. Est-ce que l'on sait ce qui va précisément déterminer la localisation de ces affections, de ces maladies, leur incidence en fonction des régions du monde? Par exemple, pourquoi la maladie de Lyme, c'est particulièrement en France, en Europe ou en Amérique du Nord?
Alors oui, effectivement, ça dépend beaucoup du vecteur, donc du type de tique qui transmet cette maladie. Alors il y a de nombreuses tiques qui existent, hein, il y a plusieurs espèces, et chaque espèce a son biotope préféré, c'est-à-dire ses habitudes et son climat préféré. Et la tique qui transmet la maladie de Lyme s'appelle Ixodes ricinus en Europe. Il y en a d'autres qui sont très proches en Amérique du Nord ou en Extrême-Orient, mais celle qui est présente en Europe s'appelle Ixodes ricinus. Et Ixodes ricinus se développe énormément. C'est la tique la plus fréquente dans nos forêts. Elle aime bien les endroits qui sont humides. Elle craint beaucoup la dessiccation. Par contre, elle ne craint pas le froid. Donc, le climat tempéré de nos forêts lui convient parfaitement pour se développer et pour survivre dans les endroits qui sont à l'abri du soleil, donc souvent dans la végétation, près du sol. Et c'est là qu'elle survit très facilement, la tique. Et elle va se nourrir, puisqu'elle a besoin de sang pour se nourrir, c'est ce qu'on appelle des tiques hématophages. Elle va se nourrir sur les petits rongeurs qui sont aussi très présents dans le même environnement, les mulots, les campagnols par exemple, et qui permettent donc de boucler ce cycle de la vie de la tique. Et c'est en raison de cette présence de cette tique, Ixodes ricinus, qu'on trouve la maladie de Lyme, puisque la bactérie qui donne la maladie de Lyme, donc Borrelia, est tout à fait adaptée. Le réservoir, comme on dit, ce sont les rongeurs. Et c'est en faisant son repas sanguin sur les rongeurs que la tique va se contaminer. Et par la suite, pouvoir contaminer, par exemple, un être humain qui passe à proximité.
En mordant à son tour et en se fixant à son tour sur la peau de l'être humain. La maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne, professeur, mais les tiques peuvent aussi transmettre d'autres agents pathogènes, d'autres microbes.
Oui, alors si on reprend la tique la plus fréquente, donc Ixodes ricinus par exemple, elle est capable de transmettre d'autres maladies qui sont différentes de la maladie de Lyme, puisque ce ne sont pas les mêmes microbes. Par exemple, l'une de celles qui est, disons qu'on redoute également beaucoup, est une maladie virale qui s'appelle l'encéphalite à tiques, qu'on appelle également TBE, de l'acronyme anglais Tick-Borne Encephalitis, qui sévit donc dans les mêmes endroits que la maladie de Lyme, puisque c'est le même vecteur et ce sont les mêmes réservoirs, donc les rongeurs qui sont porteurs de ce virus-là. Et ce virus provoque une maladie, par contre, qui est différente de la maladie de Lyme, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas les mêmes. C'est une maladie qui va s'exprimer plus avec de la fièvre, de la très forte fièvre, ce qui est plutôt rare dans la maladie de Lyme. Et l'encéphalite à tiques va provoquer des signes de méningite avec des fortes maux de tête et ce qu'on appelle des signes neurologiques. Donc les gens peuvent être perdus, confus, peuvent avoir des troubles à parole, des troubles à marche. Voilà. Donc c'est des symptômes qui sont assez différents de la maladie de Lyme, qui s'expriment plus par des manifestations qui sont plus lentes à apparaître et qui vont s'échelonner sur un temps beaucoup plus long, alors que l'encéphalite à tiques est une maladie aiguë qui va se passer en quelques jours.
En quelques jours. Donc vous êtes infectiologue, on peut imaginer qu'il y a aussi des vétérinaires, puisque ces maladies, elles concernent aussi bien les humains que les animaux domestiques, que les animaux d'élevage et même les animaux sauvages.
Alors oui, tout à fait. La tique qui transmet donc la maladie de Lyme, Ixodes, c'est une tique qui est assez large dans son choix d'hôtes. Elle cherche tous les mammifères. Alors ça peut être les rongeurs, j'ai déjà dit, l'homme, j'en ai déjà parlé. Mais les grands mammifères, en particulier dans les forêts également, sont un bon repas sanguin pour ces tiques. Mais également nos animaux domestiques, en particulier les chats et les chiens, qui vont souvent se promener dans des végétations à proximité de notre domicile et qui peuvent donc de ce fait également être contaminés par ces tiques et les ramener à la maison. Et
on les traite pour ça, les animaux domestiques.
Pardon ?
On les traite pour cela, ils peuvent avoir soit des colliers, soit des cachets.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des produits anti-tiques qui existent, dont l'efficacité n'est pas forcément toujours remarquable. Donc, c'est un débat. Disons, les produits anti-tiques permettent de diminuer un petit peu le risque, mais ça permet également, ça permet pas de donner une garantie à 100%. Mmh. Et c'est des produits aussi qui, pour certains, sont pas tout à fait dénué de risque d'effets secondaires. Donc c'est vrai que chez l'homme, on ne les utilise pas trop. Mmh. On les utilise un petit peu chez les animaux pour diminuer ce risque.
Est-ce qu'il y a des régions françaises, professeur Ivansman, des environnements où l'on a davantage de risques de contracter la maladie de Lyme ? Ce que je veux dire par là, c'est que vous travaillez à Strasbourg. Ce n'est pas vraiment un hasard que le centre de référence soit basé dans l'est de la France, dans cette région de l'Alsace.
Alors oui, c'est une région qui est fortement touchée par la maladie de Lyme, en particulier parce que dans l'Est, nous avons beaucoup de forêts, de forêts de moyenne montagne dans les Vosges, qui sont un biotope extrêmement bien adapté à la fois à la tique et enfin au réservoir de Borrelia, donc en particulier les rongeurs. Et donc c'est cet environnement qui est tout à fait propice, avec un climat qui est propice également, puisqu'il pleut beaucoup chez nous, en tout cas régulièrement. Et que surtout le soleil ne tape pas trop fort, ce qui fait que dans les régions, par exemple, du sud de la France, en particulier pour tour méditerranéen, cette tique est présente uniquement dans les hauteurs, mais pas sur, par exemple, sur la Côte d'Azur, sur le pourtour de la mer Méditerranée, parce que le climat est trop sec et pas assez, ne permet pas aux tiques de se développer correctement. En tout cas, à ce type de tique, il y a d'autres tiques, mais qui transmettent d'autres maladies.
Alors là, on a vu comment elle mord, cette tique, où est-ce qu'elle vit. Question d'un auditeur qui nous écrit sur WhatsApp, c'est Najombe du Togo. Il demande comment reconnaître les premiers signes de la maladie de Lyme, surtout après une piqûre en zone rurale, parce qu'il y a un grand risque, c'est qu'on passe en quelque sorte à côté de la morsure.
Alors oui, c'est très important d'identifier le fait qu'on ait été piqué par une tique, parce que cette piqûre de tique va nous montrer exactement l'endroit où on peut trouver les premiers symptômes. Et ça, c'est un point qui est important, puisque les premiers symptômes apparaissent au niveau de l'endroit de la piqûre de tique et apparaissent sous forme de rougeur, ce qu'on appelle également un érythème. Et cette rougeur va apparaître plusieurs jours, voire même jusqu'à 4 semaines après la piqûre de tique, et va se développer très lentement, avec un rythme de, on va dire, 2-3 mm par jour. Donc elle va s'agrandir de façon centrifuge, donc pour prendre un aspect de plus en plus étalé, de plus en plus important en surface, en restant plutôt rouge en périphérie, alors que le centre de la lésion peut reprendre une couleur à peu près normale. Et cette progression centrifuge donne le nom à cet érythème qu'on appelle l'érythème migrant. Et cet érythème est très important à identifier. Il est d'autant plus facile à identifier qu'on a remarqué la piqûre de tic et qu'on sait exactement à quel endroit surveiller sa peau. D'autant plus que la piqûre de tic peut être dans des endroits un petit peu difficiles d'accès. La tic a des petites pattes, donc elle peut remonter le long de notre corps, se mettre dans le dos ou dans les plis, dans des endroits où on ne va pas avoir beaucoup l'habitude de regarder. Et donc le fait d'identifier cette tic permet de surveiller, c'est un des points importants de la prévention, de surveiller l'apparition de cet érythème migrant dans les 4 semaines qui suivent la piqûre.
Alors, tout de suite, une illustration avec notre premier témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de Nadia. Elle a 51 ans et elle a contracté la maladie de Lyme à 3 reprises. Elle détaille ses symptômes, son parcours de soins au micro de notre reporter Raphaël Constant qui l'a rencontré à Paris.
Alors j'ai en fait été piquée et infectée 3 fois, tout simplement une fois à la campagne, une autre fois en Italie en visitant le jardin d'une villa à côté du lac de Côme, et une dernière fois pendant le Covid en fait, que j'ai eu la chance de passer effectivement dans ma maison de campagne, et où là simplement en allant ramasser des orties pour me faire une tisane, et ben voilà, je suis revenue avec une tique.
Et est-ce que à chaque fois, vous avez identifié justement, remarqué la piqûre de tic ou un érythème cutané qui est l'un des principaux symptômes en fait de la maladie de Lyme?
Oui, l'érythème cutané, c'est ce qui est le plus manifeste, mais qui ne survient pas nécessairement tout le temps. Donc la première fois, effectivement, j'ai eu un érythème et surtout quelque chose qui ressemblait à un tout petit grain de beauté. Et là, c'est mon ami à l'époque qui a tout de suite repéré la chose parce que moi, j'avais pas vraiment fait attention. La fois suivante, j'ai senti quelque chose attaché dans mon cuir chevelu, et c'est en allant voir le médecin qu'il a effectivement vu une tique accrochée.
Parce que c'est une piqûre, il faut peut-être le dire, qu'on ne sent pas une piqûre de tique.
Effectivement, la tique avec sa salive injecte en même temps une sorte d'anesthésiant qui fait qu'on ne sent absolument rien. Et la dernière fois, en fait, c'était pendant le Covid, j'ai repéré la tique, je l'ai enlevée, mais j'avais vraiment peur d'aller aux urgences pour aller demander des antibiotiques, donc je me suis dit, on va voir s'il apparaît un érythème, qui n'est jamais apparu. Dans les jours qui suivent, par contre, j'ai eu un mini syndrome grippal, mais j'ai pas fait le lien, ce qui peut paraître vraiment surprenant, j'ai pas fait le lien. Et donc voilà, j'ai laissé passer la fenêtre d'opportunité de l'infection aiguë, qui est le moment où on peut effectivement éradiquer vraiment l'infection par des antibiotiques.
Et Nadia, quels symptômes vous ont alerté ?
Dans les mois qui ont suivi, j'ai eu plein de choses extrêmement étranges, des sensations bizarres dans les jambes, des picotements, comme des sensations de gouttes d'eau. Je m'étais à laisser tomber les plats très souvent. Quand je faisais un tout petit effort, je soulevais quelque chose. Après, je pouvais avoir une crampe pendant plusieurs jours, donc des choses sans lien avec l'effort fourni. J'avais les yeux qui me picotaient, j'arrivais pas à me concentrer. Je sentais que j'étais fatiguée, je comprenais pas pourquoi. Donc j'essayais de faire du sport, et là, ça a amélioré. Parce qu'évidemment, le sport est un anti-inflammatoire aussi. Donc voilà, ça m'a amélioré, mais de façon transitoire. Et je sentais que ça aggravait. C'est-à-dire que j'avais de plus en plus de choses, de sensations étranges, particulièrement dans les jambes, qui finissaient vraiment par envahir mon existence. J'arrivais plus à dormir à la nuit, j'avais des sensations, ce qu'on appelle le fameux brouillard cérébral, et globalement la sensation d'être anormalement fatiguée en plein été.
Et les symptômes que vous me décrivez, ils sont arrivés au bout de combien de temps après cette piqûre ?
Tout de suite, en fait, donc vraiment dans les jours qui ont suivi, c'est assez proche. Dans le cas de la dernière piqûre, dès le lendemain, en fait, j'étais très fatiguée simplement. Au bout de 2 mois, quand vraiment j'avais de plus en plus de symptômes, j'arrivais plus à dormir la nuit, etc., ben, j'ai couru aux urgences, en fait. Par sécurité, j'ai eu 4 semaines d'antibiotiques.
Et au bout de combien de temps, après cette prise d'antibiotiques, les symptômes ont diminué ?
Alors initialement, les symptômes n'ont pas du tout disparu. Au contraire, j'ai eu très violent maux de tête. Le fait de prendre des antibiotiques, le fait de tuer les bactéries, elles relâchent des toxines, toutes sortes de choses qui restent dans l'organisme qu'on a du mal à évacuer initialement. Souvent, ça peut provoquer un décuplement des symptômes transitoires, évidemment, mais quand on n'est pas prévenu, on s'inquiète. Et oui, effectivement, elles m'ont redonné des antibiotiques, mais cette fois-ci avec un autre produit. C'est une bactérie qui peut prendre 3 formes. Donc, quand vous les attaquez par un côté, elles peuvent prendre une autre forme et aller se cacher. Donc, il faut prendre d'autres produits pour qu'elles ne puissent pas se cacher. Et donc là, j'ai vu que l'antibiotique marchait beaucoup mieux avec cet autre produit, puisque ça m'a mise dans un état de grande fatigue pendant quelques temps. Donc là, ça a été une période assez difficile, où à la fois j'étais sous traitement et en même temps, j'avais pas le sentiment que ça s'améliorait. Des symptômes qui migrent dans le corps. Donc soit ça peut être vraiment du brouillard cérébral, des maux de tête, soit ça va être plutôt des inflammations à un endroit ou à un autre du corps. Donc ça peut être dans le bas du dos, ça peut être dans les jambes, ça peut être dans les bras, ça peut être les articulations, ça peut être... Après, ça dépend des souches de Borrelia que vous avez. Il y en a qui ont, voilà, ont des affinités particulières pour tel ou tel type de tissu.
Est-ce qu'il vous reste aujourd'hui, Nadia, des séquelles de la maladie?
Moi, je ne parlerai pas de séquelles. Par contre, effectivement, il me reste des symptômes musculaires ou articulaires qui peuvent revenir. Mais globalement, je suis à peu près asymptomatique la plupart du temps.
Est-ce que vous, maintenant, vous faites plus attention dans votre jardin, par exemple? Est-ce que vous avez développé des réflexes?
Ah oui, je fais beaucoup plus attention. J'arrête de marcher pieds nus, par exemple. Pour pouvoir les repérer, classiquement, on demande des pantalons blancs, effectivement. Là, on peut les voir. Des pantalons qui rentrent dans les chaussettes. Des vêtements couvrants. Un chapeau, parce qu'éventuellement, elles peuvent aussi tomber des arbres. Donc voilà, et puis il y a toutes sortes de répulsifs aussi qu'on peut utiliser, mais c'est pas évident, faut être vraiment très alerté, et même quand on est comme moi, c'est pas évident de se dire chaque fois qu'on va se balader, qu'on va prendre toutes ces précautions-là, qu'il faut être alerté, et ça va pas de soi, c'est quand même assez contraignant. Puis après, effectivement, je fais beaucoup de prévention autant que possible, sur les réseaux sociaux par exemple, ou autour de moi dans différents contextes. Il y a toutes sortes de choses à savoir. Et l'importance aussi de détecter ça au plus tôt et de traiter au plus tôt, de ne pas du tout les attendre, parce que souvent les gens ont peur des antibiotiques, ça peut arriver, c'est-à-dire bon, on va voir. Et en fait, parfois après, ça peut être très compliqué d'arriver à récupérer la situation. Et voilà, un traitement d'antibiotiques au bon moment vous sort définitivement d'affaire, alors que sinon, c'est bien plus compliqué.
Votre réaction, professeur Ivansman, après ce témoignage recueilli par Raphaël Constant, c'est un petit peu le parcours, le vécu de vos propres patients en consultation à Strasbourg?
Ça dépend. Je veux dire, cette patiente a déjà... Il y a un point qui est effectivement assez important, c'est quand on se fait une fois piquer par une tique, c'est qu'on est souvent exposé et la maladie n'est pas immunisante, c'est-à-dire qu'on peut refaire plusieurs fois cette infection, puisque notre immunité, donc notre système immunitaire, ne permet pas de garder la mémoire de l'infection et de nous protéger par la suite. Donc ça, c'est effectivement un point qu'on a de temps à autre, et on prévient toujours les personnes qui ont fait une maladie de Lyme, qui peuvent en refaire et que ça nécessite de poursuivre la surveillance. Après, c'est vrai que les symptômes, disons, quand on passe à côté de la phase primaire, donc cet érythème migrant, qui est parfois extrêmement difficile à identifier. Alors, c'est toujours difficile de dire est-ce qu'il peut manquer ou est-ce qu'on l'a loupé. Nous, on a vu des patients qui ont des symptômes parfois très, très discrets, un érythème très discret, surtout quand il est dans le dos et qui n'est pratiquement pas visible. Et c'est vrai que quand on passe cette première phase, la prise en charge est souvent un petit peu plus compliquée parce que les symptômes sont beaucoup plus variés. Alors là, il parlait de symptômes un petit peu généraux, en particulier cette sensation de brouillard cérébral qui n'est pas très spécifique de la maladie de Lyme, c'est-à-dire qui peut être provoquée par toutes sortes d'autres problèmes d'infection ou de fatigue passagère. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on va surtout essayer de retrouver, c'est les symptômes qui orientent vers la maladie de Lyme, en particulier les douleurs dont elle a parlé également, qui sont des douleurs qui ont certains caractères bien spécifiques. Elle a parlé d'inflammation. Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve, ce qu'on appelle, nous, le caractère inflammatoire, donc des douleurs qui surviennent, disons, au repos sans raison évidente, en tout cas qui ne sont pas provoquées par l'activité physique. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle une phase de dissémination où la bactérie a pu toucher d'autres tissus, en particulier les tissus articulaires ou les tissus neurologiques. Et à ce stade, le diagnostic, puisque ces symptômes sont plus difficiles à identifier, le diagnostic est souvent un petit peu plus difficile. Il peut prendre du temps, et c'est là qu'il est très important que l'ensemble des soignants, des médecins en particulier, soient parfaitement au courant pour qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on puisse tout à fait quand même prendre en charge ces patients, leur proposer le traitement avec, évidemment, après avoir confirmé le diagnostic, ça, il faut quand même confirmer avec des tests qui sont des tests biologiques, voire d'autres examens qui permettent de confirmer. Et à ce stade-là, le traitement, comme elle l'a dit, reste efficace, c'est-à-dire ça permet de faire disparaître les symptômes, mais ça met plus de temps. Parfois, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'il faut attendre pour que l'ensemble des symptômes rentrent dans l'ordre. Donc on trouve effectivement des choses qu'on voit assez régulièrement dans notre centre de référence.
On a un auditeur de Dakar Alpha qui s'interroge justement sur le diagnostic et même le diagnostic différentiel, et demande si d'autres maladies présentent les mêmes symptômes que ceux de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Alors, les symptômes de la maladie de Lyme, en dehors de l'érythème migrant, il n'y a que la maladie de Lyme. C'est assez facile à reconnaître à ce stade-là. Mais si on passe dans cette phase disséminée dont on vient de discuter et qui est, on va dire, avec des symptômes beaucoup plus généraux, c'est vrai qu'on a parfois du mal à savoir si ça peut être d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec la tique, des maladies rhumatismales quand il s'agit de douleurs articulaires, des polyarthrites ou ce genre de choses, des maladies neurologiques. Les symptômes, par exemple, quand il y a une inflammation d'un nerf, ce qu'on appelle une radiculite, peuvent être très proches aux douleurs que ressentent les personnes qui ont par exemple une hernie discale avec le disque entre deux vertèbres qui va venir comprimer un nerf. C'est un peu le même style de douleur, alors que les causes évidemment n'ont rien à voir. Donc c'est vrai que c'est très important de faire le diagnostic différentiel, d'arriver à faire la part des choses, et ça passe de temps à autre par des avis spécialisés ou des examens complémentaires. On a parlé de biologie, par exemple, ça peut être également certaines imageries de l'IRM, et par exemple, pour voir s'il y a une hernie discale qui pourrait provoquer les mêmes symptômes. Et s'il n'y a pas d'hernie, évidemment, on va dire que c'est plutôt la maladie de Lyme qui est à l'origine de ces symptômes-là. Et on va parfois jusqu'à des examens complémentaires qui sont ce qu'on appelle un petit peu plus invasif, comme la ponction lombaire, qui permet justement d'identifier cette inflammation dans le liquide qui est prélevé et qui permet évidemment aussi de faire les tests spécifiques d'un maladie de Lyme qui confirme que c'est bien cette maladie qui est à l'origine des symptômes.
Professeur Hansmann, on va poursuivre notre échange dans quelques minutes. On va donner la parole à l'un de vos confrères au Bénin, juste après ce titre Paradis interprété par Mr. Léo Cotoboy et Princesse Vigna sur RFI.
Le paradis est sur cette terre, aïe oé. Les problèmes ne finissent pas, pourquoi tu veux te tuer? À mon ami, parfois faut s'enjailler. Un soldat ne lâche pas, soit tu tires ou te fais tirer. À mon ami, faut pas se négliger. Oh.
Mon ami, est-ce que tu m'entends? Faut pas perdre espoir. Mon ami, tout dépend de toi. Oh. Ami, est-ce que tu m'entends? Ouais. Faut pas perdre ta joie. Mon ami, tout dépend de toi. La vie, c'est un tour. C'est un tour.
Le paradis.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui de la maladie de Lyme et des autres maladies transmises par les tiques avec le professeur Yves Hansmann, responsable du centre de référence des maladies vectorielles à tiques du CHRU de Strasbourg, qui se trouve en ce moment dans les locaux de nos confrères d'ici Alsace, que l'on remercie pour leur accueil. Professeur Yves Hansmann, très concrètement, aujourd'hui, quand on repère une tique sur soi, vous dites quoi aux patients? Les principaux conseils pour agir très concrètement suite à une morsure ou piqûre de tique?
Alors, on leur dit clairement qu'il faut la retirer. Il faut la retirer le plus vite possible, puisque en particulier pour la maladie de Lyme, la transmission de cette bactérie qui s'appelle Borrelia va nécessiter un certain temps à la tique. C'est-à-dire que la Borrelia, initialement, elle est dans le tube digestif de la tique, dans l'intestin de la tique. Et elle a besoin, au moment de la piqûre, il y a un phénomène qui se passe au sein de la tique où la bactérie va changer un petit peu d'activité, va se transformer, va devenir infectieuse et va migrer de l'intestin vers les glandes salivaires. Et ce processus, il est relativement long. Il dure en général à peu près 24 heures. Ce qui veut dire que si on retire la tique dans la journée, en moins de 24 heures, même si la tique est contaminée par l'agent de la maladie de Lyme, Borrelia, elle n'aura pas eu le temps de la transmettre. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, l'idée, c'est de retirer la tique, on va dire, le plus rapidement possible. Ce n'est pas une question de minutes, mais il faut la retirer dans la journée. Et pour la retirer, bon, c'est vrai que ce sont des tiques qui sont très, très petites, qui sont parfois difficiles à identifier, difficiles à retirer. Donc, il faut plutôt utiliser des petits outils. Alors, l'outil le plus fréquent qu'on propose, c'est ce qu'on appelle un tire-tique, hein, qui est une sorte de petit crochet à tique, comme ça, qui permet de retirer la tique sans la traumatiser, c'est-à-dire que sans laisser les pièces piqueuses à l'intérieur de la peau. On peut également utiliser, à défaut de tire-tique, une pince, mais il faut que ce soit une pince très très fine, parce que cet acarien étant très petit, c'est un petit peu délicat. Et c'est ça qui est le geste le plus important. Et ensuite, bien sûr, c'est toutes les mesures, disons, d'information qu'on donne aux personnes pour la surveillance par la suite, pour identifier cet érythème dont je parlais tout à l'heure.
On désinfecte derrière, est-ce qu'on prend systématiquement des antibiotiques ?
Alors effectivement, donc on désinfecte derrière, ça c'est très important parce qu'il y a une petite effraction cutanée qui peut se surinfecter. Et il n'y a pas de recommandation pour prendre immédiatement des antibiotiques, tout simplement parce que si on la retire suffisamment rapidement, le risque de transmission est vraiment très faible, il est quasiment négligeable. Alors que l'événement piqûre de tique est un événement extrêmement fréquent, hein, en particulier dans nos régions. Il y a des personnes qui, par exemple, se rendent régulièrement en forêt ou des gens qui travaillent en forêt qui se font piquer tous les jours. Donc on ne peut pas leur imposer de prendre un traitement antibiotique tous les jours. Et on n'a pas tout à fait non plus la certitude que ce soit l'idéal en termes de prévention. Donc globalement, la recommandation, c'est de retirer la tique et par contre de surveiller. Et s'il y a le moins de symptômes, que ce soit l'érythème ou des signes un petit peu généraux, la personne interviewée tout à l'heure parlait de fièvre et ce genre de choses. Si ça survient, il faut aller voir le médecin qui fera son examen clinique, la démarche diagnostique et qui verra s'il y a lieu ou pas de donner un traitement antibiotique dans cette situation.
Alors quand il y a justement des symptômes particuliers, voire des complications, professeur Hansmann, quand la maladie de Lyme n'est pas diagnostiquée de manière précoce, est-ce que ça veut dire que vous pouvez travailler éventuellement avec des neurologues ?
Ah oui, tout à fait. Donc, dans notre centre de référence, on travaille vraiment en équipe, comme dans tous les centres de référence et dans la plupart des hôpitaux. On va échanger avec des collègues neurologues, des collègues rhumatologues, également des collègues dermatologues. Ce sont les spécialistes avec les infectiologues qui sont les plus concernés par la maladie de Lyme. Mais occasionnellement, on peut également travailler avec d'autres spécialistes comme les cardiologues, puisqu'il peut y avoir des atteintes cardiaques. Et tout ça également en lien avec les collègues du laboratoire, les bactériologistes, qui vont être vraiment la clé pour identifier, enfin pour faire le diagnostic sur les prélèvements sanguins.
Est-ce que ça veut dire qu'à posteriori, un traitement, ça peut résorber, voire éliminer les séquelles ?
Alors, dans la maladie de Lyme, le traitement antibiotique va avoir pour objectif d'éliminer la bactérie.
Oui.
Et ça, on y arrive plutôt bien. Alors, il y a toujours évidemment des petites controverses par rapport à ça, mais les études scientifiques montrent que dans les suites d'un traitement bien conduit, avec le bon antibiotique, la bactérie va toujours disparaître. Par contre, si cette bactérie a occasionné des dégâts, en particulier des dégâts, par exemple, au niveau des nerfs, des dégâts tissulaires au niveau des nerfs, ça peut provoquer, disons, des dégâts qui peuvent persister après. C'est-à-dire que
cause, mais pas les effets.
Voilà les effets. Donc, en général, les douleurs, par exemple, qui sont liées à l'atteinte des nerfs, le nerf ne va pas complètement se régénérer normalement, dans tout à fait comme il était avant. Et il peut y avoir effectivement des personnes qui gardent des séquelles et qui peuvent en souffrir. Et puis, de temps à autre, il y a également des personnes qui, dans les suites de la maladie de Lyme, peuvent déclencher une maladie qui peut persister. Alors, on parle un petit peu de ce qu'on appelle le post-Lyme disease, donc une maladie qui suit la maladie de Lyme, où la maladie de Lyme joue le rôle de déclencheur. On traite la maladie de Lyme, on fait disparaître la bactérie. Mais par contre, il il y a un phénomène qui s'est passé au niveau de l'organisme qui peut s'autonomiser par la suite et provoquer un certain nombre de symptômes, dont également une fatigabilité, des douleurs ou ces troubles un petit peu, enfin de sensations brouillères cérébrales, pour reprendre des termes assez faciles, mais des troubles un petit peu cognitifs où les gens, ils ont du mal un petit peu à se concentrer et à réfléchir. Et donc ça, c'est complètement indépendant de la bactérie, mais c'est des phénomènes qui, on pense, ont été déclenchés dans tout ce qu'on appelle les cohortes de maladies de Lyme. Comme pour d'autres infections, le facteur infectieux joue le rôle de déclencheur et peut provoquer ces symptômes-là qui peuvent persister après pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
Comme on l'a vu par exemple pour le Covid long, par exemple.
C'est un peu le même phénomène que pour le Covid long, effectivement. C'est vraiment le même principe.
On va maintenant donner la parole à l'un de vos confrères du Bénin.
RFI à Cotonou. 90 FM.
On vous retrouve, docteur Lucien Dosoukbété, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes infectiologue à Cotonou, vous êtes aussi le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé du Bénin. Docteur, on parle beaucoup de la maladie de Lyme depuis le début de cette émission. Il y a des tiques chez vous au Bénin, comme partout sur la planète. Dans votre contexte, quelles sont les maladies les plus fréquemment rencontrées, transmises par ce vecteur particulier ?
Alors, bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et bonjour au professeur Yves Hassmann, que j'ai vu il y a très longtemps.
Bonjour à toi, alors, Lucien.
Comment tu vas ? Alors, donc, au Bénin, il y a des tiques, elles sont fréquentes et réparties sur tout le territoire et elles vont s'en prendre aussi bien aux hommes que aux animaux domestiques, au bétail et aux animaux sauvages, comme vous l'avez déjà dit. Et toutes les maladies qu'elles transmettent, on sait qu'elles sont nombreuses, puisque la tique va héberger aussi bien des bactéries que des virus qu'elle va transmettre. Et contrairement à ce qui se passe en France ou en Europe, la maladie de Lyme n'est pas très répandue. Je dirais plutôt qu'elle n'est pas très connue, elle n'est pas très recherchée, ce qui fait qu'on en parle plutôt de manière anecdotique. Mais il y a de nombreux tableaux cliniques qui font penser à cela. Et les difficultés de diagnostic sont là parce que quand on prend déjà l'érythème migrans, il y a des lésions de ce type, on peut les retrouver avec des piqûres d'autres insectes qui sont nombreux aussi. Donc, ensuite, il y a d'autres pathologies cutanées qui font que le diagnostic différentiel n'est pas facile. Donc, le diagnostic peut être pas fait. Quand on y pense maintenant, l'accès aux examens qui vont confirmer sont inexistants ou lorsqu'ils sont accessibles, ils sont tellement onéreux que le malade ne peut pas le faire. Donc, en tant que médecin, on est confronté à des situations, on va l'évoquer, on va y penser rarement et on n'a pas toujours les moyens de pouvoir faire le diagnostic.
On comprend bien, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles à ce diagnostic. Pour autant, si l'on ne parle pas de la maladie de Lyme, est-ce qu'il y a d'autres maladies à tiques qui, vous, en tant qu'infectiologue, vous avez déjà eu l'occasion de diagnostiquer ?
Là aussi, c'est pareil. Toutes les autres maladies à tiques nécessitent des examens paracliniques qui ne sont pas disponibles sur le territoire. Ce qui fait que là aussi, le diagnostic est difficile. On sait qu'elles existent, on va être confronté. Et on sait aussi qu'à côté de l'homme, il y a le bétail. Et pour un pays en développement, c'est un gros problème que le bétail soit touché par ce type de maladie qui va gêner la productivité, il va faire perdre des têtes de bétail. Donc le diagnostic, c'est vraiment difficile, quelle que soit la maladie transmise par la tique.
Et on peut dire aussi qu'on peut imaginer que le paludisme fait un petit peu passer ces autres maladies vectorielles sous les radars, parce que très vite les soignants disent fièvre, douleur, palu, et pas forcément Crimée Congo ou autre maladie à tique, encéphalite.
Exactement, la fièvre est un élément qui apparaît dans la maladie de Lyme, c'est vrai qu'elle n'est pas très importante, mais dès l'instant où on a de la fièvre, le premier diagnostic qui est évoqué est celui du paludisme, même s'il y a d'autres signes avec, les soignants ont tendance à oublier les autres signes avec et traitent, parce que c'est plus facile. Le traitement est plus facile à trouver, bien que la règle aujourd'hui soit un test biologique qui est négatif, pensez à autre chose, ne traitez pas le palu, mais les habitudes sont dures à changer.
Alors,
ce qui fait que c'est un problème.
Quand on vous entend, docteur Dosoukbété, on comprend, c'est que c'est vraiment ces maladies vectorielles à tiques, ça reste chez vous vraiment un domaine à explorer, y compris avec un travail de formation auprès des soignants.
Exactement, un travail de formation au niveau des soignants, un travail à faire pour mettre à disposition des professionnels tous les équipements qui permettent d'aller au diagnostic biologique pour qu'on puisse assurer ces éléments. Et aujourd'hui, on parle de bonne health pour dire qu'il n'y a pas à mettre de frontières entre la santé animale, santé humaine et santé environnementale. Donc, aller interroger aussi ce qui se passe au niveau du bétail pour pouvoir anticiper de ce qu'on peut faire au niveau des humains.
Un grand merci pour toutes ces explications, Dr Lucien de Souk-Bété. Très, très bonne journée à Cotonou. On se retrouve pour la conclusion de notre échange, professeur Hansmann, toujours à Strasbourg. Vous aviez signé en 2018 un livre sur la maladie de Lyme, au-delà de la polémique. Alors, c'est vrai que cette infection vectorielle, elle a donné lieu à des débats parfois enflammés. Ça peut étonner, mais c'est la réalité. Parce qu'on parlait à l'époque de Lyme chronique. Vous avez parlé de symptômes résiduels. On en a terminé avec cette polémique ou elle existe encore ?
Clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle existe encore. C'est vrai que c'est un sujet qui prête assez facilement, disons, à des controverses, puisque j'ai dit combien parfois le diagnostic était difficile. L'identification de la bactérie est également un élément qui est difficile. On a des tests qui sont des tests, ce qu'on appelle le diagnostic indirect. Donc, on n'identifie pas la bactérie, mais on identifie les anticorps. Donc, ça ne signe pas la présence de la bactérie. Tout ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et c'est vrai que ça laisse la porte ouverte à d'autres hypothèses ou des interprétations qui sont tout à fait légitimes hein, dans beaucoup de cas. Mais c'est vrai que pour la maladie de Lyme, ça a pris une ampleur extrêmement importante avec ce qu'on peut appeler une polémique. C'est-à-dire qu'en particulier, il y a malheureusement de temps à autre des informations fausses, également clairement fausses, qui circulent sur la maladie et contre lesquelles il faut un petit peu lutter, en particulier sur les tests diagnostiques. Ceux qui sont disponibles en France sont des tests qui sont validés avec des études cliniques parfaitement réalisées sur le plan scientifique. Mais malheureusement, il y a d'autres tests diagnostiques qui sont proposés souvent à tort aux patients et qui n'ont aucune validation ou qui sont simplement des tests qui n'ont aucune valeur mais qui prétendent faussement que les gens sont infectés par la maladie de Lyme. Et donc ça suscite beaucoup d'inquiétude aussi auprès des patients, ce qu'on comprend facilement, et beaucoup d'interrogations et de confusion entre les patients, les médecins, les différents discours qui existent. Et ça, c'est vraiment très délétère pour l'ensemble de la maladie et surtout les patients qui en souffrent.
Avec la prise en charge et le risque aussi de prendre des antibiotiques au long cours alors que ça ne va pas avoir de réelle utilité sur le plan clinique. Professeur Hansmann, on sait que d'autres vecteurs, on pense aux moustiques en particulier, changent de région, notamment à la faveur du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des risques identiques en ce qui concerne l'éthique, c'est-à-dire de voir certaines maladies, aujourd'hui on parle de Lyme en Europe par exemple, certaines maladies changer de région, comme on a pu le voir par exemple pour la dengue ou le chikungunya?
Alors, pourquoi pas? Disons, la tique, globalement, est beaucoup moins mobile que le moustique, hein, puisque la tique a juste des petites pattes et elle a un périmètre relativement limité hein, pour passer sa vie, alors que le moustique peut voler plusieurs centaines de mètres. Et donc, il y a déjà cet élément-là qui fait que la propagation des tiques est beaucoup plus limitée. Ceci dit, il y a des éléments qui sont importants, par exemple les modifications de notre climat qui vont amener à des modifications des conditions et de l'environnement qui, lui-même, peut être plus ou moins propice pour le développement des tiques. Par exemple, le réchauffement climatique, si par exemple les températures continuent à augmenter et surtout s'il pleut moins, c'est un élément climatique qui n'est pas favorable aux tiques. Et on voit par exemple pour certaines maladies comme l'encéphalite atique qu'il y a plutôt une progression vers le nord, c'est-à-dire que des régions comme la Scandinavie par exemple n'étaient pas contaminées par... il n'y avait pas ce virus qui provoque l'encéphalite atique il y a quelques décennies. Et maintenant, il est bien identifié que ce virus est bien présent en Scandinavie, probablement parce que du fait du réchauffement climatique, la tique Ixodes ricinus, qui en est le vecteur, a pu s'y implanter sans problème. Donc oui, on peut imaginer qu'il y ait une modification de l'épidémiologie, mais ce sera probablement beaucoup plus lent que ce qui se passe pour les moustiques, où la propagation des moustiques est par contre beaucoup plus rapide, hein, qu'on voit d'année en année, quoi.
Quand on a justement des tiques présentes, quelques conseils pour éviter la morsure en quelques secondes?
Alors, c'est vrai que c'est des conseils qui sont importants. Alors, la tique, elle ne tombe pas des arbres, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Elle est vraiment sur le tapis végétal. Donc, les conseils, c'est de porter des vêtements longs qui sont quand même protecteurs, qui confèrent une protection mécanique. Elle n'est pas parfaite, mais ça permet quand même de limiter le risque de piqûre de tique, de rester sur les chemins, donc de ne pas aller trop sortir des chemins où on va être au contact avec les hautes herbes où se trouvent les tiques qui sont à l'affût quand elles vont faire leur repas. Et puis pour les promeneurs occasionnels, on peut également y associer l'utilisation de répulsifs. Alors je dis promeneurs occasionnels parce que ce sont des produits chimiques qui ne sont pas totalement dénués d'effets secondaires. Donc ils sont tout à fait autorisés pour des utilisations comme ça ponctuelles, mais pas pour les gens qui sont quotidiennement en forêt où on a vraiment tendance à leur proposer de porter vraiment ces vêtements à manches longues, voire même des guêtres au niveau des pieds et des jambes pour empêcher les tiques qui se laissent tomber sur nos jambes de remonter en dessous du pantalon.
Voilà pour ces mesures pratiques. Merci beaucoup, professeur Hansmann. Très bonne journée à Strasbourg. On va parler de la lutte contre la drépanocytose. C'est demain la journée mondiale. Entretien à suivre après ce titre de Siraba d'Ambakele sur RFI. C'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et nous étions, il y a quelques jours, à Abuja, au Nigeria, pour le congrès mondial dédié à cette maladie génétique la plus fréquente au monde, maladie de l'hémoglobine. Et nous allons donner la parole à l'une des figures de la lutte contre cette maladie. C'est vous, professeur Isaac Odame. Bonjour.
Alors,
vous êtes professeur d'hématologie et d'oncologie au département de pédiatrie de l'Université de Toronto au Canada. Vous êtes aussi le directeur médical du Global Sickle Cell Disease Network. Et la drépanocytose, c'est la plus fréquente des maladies génétiques au monde. Quatrième priorité de santé publique dans le monde pour l'OMS après le cancer, le sida et le paludisme. Et pourtant, beaucoup ignorent encore son existence, notamment en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Je pense que l'explication, c'est que de nombreuses maladies non transmissibles plus connues se déclarent à un âge avancé. Et aussi, l'origine ethnique et le contexte racial des populations affectées. Donc il y a plus d'intérêt quand les personnes ont des liens ou une expérience avec ces maladies. Pour ce qui est de la drépanocytose, cette maladie est plus fréquente chez les personnes d'origine africaine et indienne. Dans les pays où se trouvent les ressources pour investir dans ces maladies, Eh bien, le nombre de malades est rare. Et dans ces pays développés, les populations ne connaissent pas la maladie. Cela étant dit, y compris en Afrique subsaharienne et en Inde, en raison de la stigmatisation, il y a aussi une méconnaissance liée aux nombreux mythes associés à cette maladie. Certains croient que c'est une malédiction, et d'autres pensent que c'est une punition pour la famille. Résultat, les gens se cachent, n'arrivent pas à assumer et à dire « J'ai cette maladie et on traverse cette épreuve avec ma famille ». La combinaison de tout cela fait que l'on néglige la drépanocytose par rapport aux autres maladies génétiques non transmissibles.
Précisément, même si on a compris que cette maladie touche également l'Inde, hein, un énorme bassin de population en Inde, est-ce que c'est pour autant une maladie tropicale négligée ?
Oui, c'est une maladie tropicale négligée. Même en Inde, ce sont les peuples tribaux qui sont touchés. Et seules les populations qui vivent dans les zones tribales reculées sont laissées pour compte de la lutte contre la maladie. Le gouvernement indien a une administration dédiée aux affaires tribales et la drépanocytose fait partie de ses activités. L'Inde a fait d'énormes efforts dans cette lutte, donc je pense que ce type d'initiative fait progresser l'intérêt pour cette maladie et cette question n'est plus négligée.
Professeur Odame, à vos yeux, quelle est la priorité absolue dans la lutte contre la drépanocytose ?
Je crois que la priorité absolue, c'est de faire passer le message qu'il s'agit d'un problème de santé publique, avec un risque de mortalité précoce. Les patients qui vivent ont une vie difficile et une morbidité élevée. Ça revient cher et cela appauvrit les familles et les systèmes de santé qui doivent investir davantage dans la prise en charge de ces patients qui sont souvent hospitalisés. Beaucoup de ces enfants ont un parcours scolaire perturbé et ne sont pas en mesure de conserver un emploi parce que leurs options pour trouver du travail sont réduites. C'est un message adressé à la société et mon message, c'est que de ne rien faire, surtout en Afrique subsaharienne, ça revient plus cher pour tout le monde. Il est temps de considérer la lutte contre la drépanocytose comme un investissement rentable.
Malgré tout, professeur, même si je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire, les temps sont durs pour la santé publique, en particulier en raison de ce qui se passe du côté de Washington. Est-ce que les temps ne vont pas être encore plus difficiles pour les patients atteints de drépanocytose ?
Absolument. Je pense qu'à mesure que les Occidentaux se retirent des financements de la santé globale en raison de leurs propres difficultés économiques, les fonds pour soutenir ces initiatives vont diminuer au lieu d'augmenter. Ce qui veut dire que les pays concernés par ces maladies doivent se mobiliser et trouver leurs propres solutions. Ce qui signifie faire plus avec moins. Nous devons travailler ensemble, collaborer. Si je regarde l'Afrique, par exemple, il y a tellement d'initiatives en cours, des fondations, des ONG, mais elles ne sont pas coordonnées et nous dépensons de l'argent pour faire la même chose, alors que si l'on travaillait davantage ensemble, on pourrait améliorer les efforts de chacun et amplifier les résultats de la riposte. La nouvelle donne liée au revirement de Washington nous rappelle que nous devons persévérer. Nous avons besoin de plus de collaboration, plus de connectivité pour traiter ce problème au plus vite.
Merci professeur Odame, c'est vraiment important de parler de cette maladie, la drépanocytose. On vient bien de le comprendre avec toutes vos explications.
Thank you so very much for giving me this opportunity.
Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui prépare, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pau, Victor Hull à la réalisation. Demain, nous allons donner la parole à des acteurs de la santé communautaire. Coup de projecteur sur ces initiatives de terrain pour améliorer l'accès aux soins. Qui trouve-t-on derrière ces projets qui permettent de renforcer la santé des plus vulnérables? Quel défi pour la santé communautaire face aux baisses des financements? Là encore, on en parlait à l'instant. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.